Oui, bonjour tout le monde. Écoutez, comme vous l'avez vu au cours des derniers jours, des dernières semaines, on a mis en place des mesures que certains trouvent très dures, qui, je sais, sont difficiles à vivre, surtout après un an. Mais, heureusement, quand on se compare avec ce qu'on voit, par exemple, en Ontario, on peut dire que nos mesures fonctionnent pour l'instant. Pour l'instant, la situation est toujours fragile. Il faut être très prudent. Puis, je veux revenir à ce qui se passe en Ontario, pour que tout le monde comprenne. Au Québec, on a actuellement 694 patients COVID hospitalisés. En Ontario, ils sont rendus à 2360. L'Ontario, c'est 1,7 la population fois la population du Québec. Donc, on voit que la situation est très grave. On atteint les capacités limites dans les hôpitaux en Ontario. On a des discussions, là, je parle avec Doug Ford régulièrement. Mais il faut rester très prudent parce que dans certaines régions, nous aussi, on approche de la capacité limite. Je veux vous parler, bien sûr, des trois régions qui sont les plus inquiétantes, Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches et Outaouais. Bon, d'abord, Capitale-Nationale, comme on l'a vu depuis le début de la pandémie, il y a toujours d'abord une augmentation de cas, ensuite une augmentation d'hospitalisation, puis ensuite une augmentation des décès. On voit que la situation se stabilise sur le nombre de cas dans la capitale nationale, mais on voit que ça continue à augmenter du côté des hospitalisations puis des décès. On voit depuis seulement deux jours, il y a eu une augmentation nette à Québec de 15 hospitalisations, puis il y a eu 6 nouveaux décès juste dans les deux derniers jours. Donc, puis quand on se rappelle la montée du nombre de cas des dernières semaines, malheureusement, on peut penser qu'on va continuer à avoir des augmentations de ce côté-là. En Chaudière-Appalaches, même chose. On voit là, depuis deux jours, 7 hospitalisations nettes de plus, 6 décès de plus dans Chaudière-Appalaches. Évidemment, le problème le plus grave est en Beauce. En Beauce, on est obligé de transférer 5 patients au cours des derniers jours de l'hôpital Saint-Georges-de-Beauce à l'Hôtel Dieu de Lévis. Et puis, dans toute la région Chaudière-Appalaches, on est vraiment proche de la capacité maximale là, pour le nombre de patients dans les hôpitaux. En Outaouais, bon, d'abord, le nombre de cas stabilise, mais est encore très élevé. Quand on regarde les taux de tests positifs, pour vous donner un ordre de grandeur, la moyenne au Québec, c'est 3,7 % des tests qui sont positifs. En Outaouais, hier, c'était 10,9 %. Donc, c'est la région qui a le taux de tests positifs le plus élevé. Déjà, bon, on le sait depuis plusieurs années, la capacité hospitalière est limitée en Outaouais. C'est pour ça qu'on va construire un nouvel hôpital. On est obligé de transférer des patients vers les Laurentides. Donc, là aussi, c'est vraiment proche de la limite là, hospitalière dans la région de l'Outaouais. Donc, je vous annonce, malheureusement, qu'on va être obligé de prolonger les mesures d'urgence dans ces trois régions, Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches et Outaouais, pour une autre semaine, donc jusqu'au lundi 3 mai. Bon, évidemment, ce que ça veut dire, c'est couvre-feu 8 heures, commerce non essentiel fermé et toutes les écoles fermées. On regarde, par contre, la situation de très proche, et je peux dire aux parents, là, on comprend très bien qu'au primaire, c'est très difficile l'enseignement à distance pour des enfants du primaire. Donc, la première chose, dès qu'on va avoir repris le contrôle de la situation, la première chose qui va être ouverte dans ces trois régions-là, bien, ça va être les écoles primaires. Mais actuellement, bien, on le sait, il y a de la contamination, il y a de la contagion dans les écoles. Même si les enfants eux-mêmes sont peut-être moins à risque, ça a un impact sur la famille puis sur la, contamination, contagion communautaire. Donc, on ne peut pas, pour l'instant, ouvrir les écoles primaires. Montréal et Laval, on voit que le nombre d'hospitalisations puis le nombre de cas reste très élevé, mais stable de façon surprenante. On pourrait penser, puis quand on regarde à peu près partout ce qui se passe ailleurs dans le monde, ce sont les grandes villes, les plus grandes villes où il y a le plus de contagions, mais pour l'instant, là aussi, nos mesures fonctionnent. Je comprends que Montréal et Laval, on a vu des réactions depuis qu'on a annoncé dimanche, une dizaine de jours, le couvre-feu à 8 heures. Évidemment, c'est pas idéal. On comprend tous que c'est pas le fun d'être obligé de rentrer à la maison à 8 heures. Mais pour l'instant, il reste que c'est presque difficile à comprendre comment ça se fait que les cas puis les hospitalisations se sont stabilisés à Montréal et Laval. Mais il faut pas exclure dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, qu'il y ait une explosion de cas à Montréal et à Laval. C'est pour ça qu'on continue de suivre la situation de très, très proche. Bon, dans les autres régions, ça reste à des niveaux sous contrôle, mais encore une fois, il faut être prudent partout, dans toutes les régions du Québec, parce que ça peut prendre quelques jours pour exploser, surtout avec les variants là, qui sont beaucoup plus contagieux. C'est important, là, je veux le répéter, il y a toutes sortes de choses qui ont été dites sur les jeunes. Il reste que quand on regarde le nombre de cas chez les moins de 60 ans, puis qu'on se compare avec le pic du mois d'avril l'année passée, 2020, on a deux fois plus de cas de personnes de moins de 60 ans. Je ne sais pas, le ministre de la Santé me disait qu'il faudrait dire jeunes adultes, parce que on ne parle pas nécessairement juste des très jeunes. Mais si vous regardez, par exemple, hier, dans l'ensemble du Québec, il y a eu 77 nouvelles hospitalisations. Il y en a eu 35, que c'était des personnes entre 45 et 64 ans. Il y en a eu 10 que c'était des personnes entre 18 et 44 ans, puis il y en a eu deux, c'était des personnes entre 0 et 17 ans. Donc, on le voit là, c'est évident depuis quelques semaines qu'il y a une augmentation du nombre de jeunes à l'hôpital. Vous avez vu ce matin dans les médias cette jeune femme de 24 ans, cette jeune mère qui est à l'Hôtel-Dieu de Québec depuis 3 semaines, elle ne peut pas manger, elle ne peut pas marcher. Et pourtant, elle a 24 ans. Donc, il faut rester, tout le monde, très prudent. Bon, la bonne nouvelle, c'est que la santé et toute l'équipe de vaccination fait un travail extraordinaire. Moi, je suis content. Je regarde ça presque d'heure en heure. À part la Saskatchewan, on est la province qui a vacciné le plus grand pourcentage de la population avec une dose. Donc, ça veut dire que notre système de vaccination fonctionne bien. Cette semaine, on a eu une mauvaise nouvelle. Ottawa nous a annoncé que malheureusement, on va avoir moins de Moderna, mais ensuite, on va avoir plus de Pfizer. Donc, on pourra reprendre à partir de la semaine prochaine un rythme plus soutenu. Bonne nouvelle aussi, je vous annonce qu'à compter de demain matin, le vaccin AstraZeneca sera disponible pour toutes les personnes de 45 ans et plus. Donc, si vous avez 45 ans et plus, dépêchez-vous demain matin à aller vous enregistrer. Vous allez pouvoir vous faire vacciner. Puis, je répète, très important, puis on a eu le OK de la santé publique, le vaccin AstraZeneca est très sécuritaire et très efficace. On continue aussi à vacciner les travailleurs essentiels, comme les enseignantes, les éducatrices. Puis cette semaine, je pense que c'est jeudi, Christian Dubé va annoncer là comment on va fonctionner pour les personnes handicapées, les proches aidants. C'est pas simple, là, parce que évidemment, on veut pas commencer à faire des enquêtes pour savoir si c'est vrai. Christian va expliquer ça jeudi. Donc, on va aussi les faire passer devant les autres. Puis parlant de ça, je veux quand même revenir parce que j'entends beaucoup de personnes dire « Pourquoi vous ouvrez pas à tout le monde? » Bien, parce qu'on a fait le choix au Québec de commencer par les personnes qui étaient le plus à risque, qui étaient le plus vulnérables. Donc, c'est un choix qu'on fait. Ça ne nous empêche pas d'être efficaces, là. Oui, ça peut arriver qu'à certains endroits, il n'y ait pas de file d'attente et qu'il y ait des places de disponibles, mais il reste qu'au total, on vaccine plus que dans les autres provinces, puis ça nous permet de respecter un ordre et puis de commencer par ceux qui sont le plus à risque. Donc, je termine en vous disant que, évidemment, l'espoir, c'est la vaccination, c'est notre passeport vers la liberté de revoir nos amis, nos proches. Il y a encore des semaines difficiles d'ici à ce qu'on ait une majorité de la population du Québec qui soit vaccinée. Donc, s'il vous plaît, soyez prudents. Quand vous avez des symptômes, allez vous faire dépister. Là, on nous dit que la moitié n'y vont pas quand ils ont des symptômes. Là, c'est important, par solidarité, d'aller vous faire dépister. Puis quand c'est votre tour de vous faire vacciner, bien, allez vous faire vacciner. C'est comme ça qu'on va se donner un bel été. Merci. Je compte sur vous. Good afternoon, everyone.
OK. Donc, les informations qu'on vous communiquait un peu plus tôt sont confirmées pour ce qui est du vaccin AstraZeneca. C'est ouvert à partir de demain. Vous pourrez prendre un rendez-vous si vous avez donc 45 ans et plus, donc si vous êtes né en 1976 ou avant, en espérant que tout le monde va comprendre que c'est 1976 ou avant, parce que j'ai encore des rapports de personnes, Valérie, qui me disent « j'ai pas encore mon 55 ans, mais je suis né en 1966 et puis ils m'ont refusé le vaccin ». Pourtant, le ministre l'a dit sur les ondes, il l'a répété en conférence de presse, il l'a mis sur Twitter, mais je ne comprends pas pourquoi là, il y a des endroits où il ne t'accepte pas.
Ça s'est passé notamment sur la Rive-Sud, là, au 10-30 notamment.
Oui, oui, alors c'est très frustrant pour ces personnes-là. Alors, qu'est-ce que tu retiens?
Bien, ce que je retiens, évidemment, c'est les trois régions les plus inquiétantes qui sont encore une fois la Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches, l'Outaouais. Oui. Tous ces endroits-là vont demeurer fermés encore pour une semaine supplémentaire jusqu'au 3 mai. Et ce qui attriste le plus le premier ministre, évidemment, c'est les enfants, les écoles qui restent fermées. Il l'a bien dit, là, la première chose qu'on va ouvrir dans ces régions-là quand la contagion va être sous contrôle, ce sont les écoles primaires.
Voilà, excellent. On l'avait un petit peu anticipé, on sentait que ça s'en venait. Il y a des transferts de patients aussi, hein? Ceux qui pensent que, tu sais, quand on dit là, faut faire attention parce qu'on veut pas que nos hôpitaux débordent, bien, il y a des régions du Québec où les hôpitaux débordent déjà, ils sont obligés de transférer des patients. La Beauce a dû transférer quelques patients. Et puis, il y a une autre région également, l'Outaouais, qui a dû transférer des patients vers les Laurentides. Fait que... C'est vrai que le système hospitalier peut atteindre à un moment donné sa pleine capacité. Ça arrive déjà dans certains coins du Québec.
Oui, oui, parce que quand même, on le dit, là, surtout pour l'Outaouais, on est très proche de la limite hospitalière. Puis pour ce qui est de Montréal et Laval, ben, il semble surpris quand même que ça soit aussi stable
que ça
dans
tienne.
Une grande métropole comme ça.
Oui, ouais. Mais en même temps, il nous met en garde. Il dit que ça pourrait virer de bord très rapidement. Hein?
Oui, donc il ne faut pas exclure qu'il y ait une explosion de cas à Montréal et à Laval. C'est ce qu'il avait à dire aussi là-dessus. Puis quand on regarde au niveau des hospitalisations, les chiffres, c'est assez inquiétant de voir qu'il y a un si grand nombre. Sur 77 hospitalisations, il y en a 47 d'entre elles que ce sont des personnes plus jeunes, là, vraiment.
Période des questions.
Monsieur Legault, quand vous dites la moitié qui ont des symptômes n'y vont pas, est-ce que c'est comme ça qu'on peut expliquer la stabilité des cas à Montréal et Laval? C'est tout simplement que les gens ne vont pas se faire tester?
Non, parce qu'on voit une stabilité du nombre d'hospitalisations. Donc, si les gens devenaient vraiment malades, ils se rendraient à l'hôpital, puis on voit que c'est stable du côté des hospitalisations.
Le maire d'Ottawa, Jim Watson, demande à lever les barrages avec le Québec, parce que oui, ça crée des bouchons de circulation assez importants. Pour les gens de l'Outaouais, les gens de Gatineau, qu'est-ce que vous avez à dire? Vous, est-ce que vous... C'est quoi votre réponse à ça?
Bien, écoutez, quand vous regardez le taux de contagion en Ontario, le nombre de cas, le nombre d'hospitalisations, la situation est plus grave en Ontario qu'au Québec. Donc, c'est surtout nous là, qui tenons à garder ces mesures-là, s'assurer que les gens de l'Ontario ne viennent pas ajouter à la contagion à Gatineau puis à différents endroits au Québec.
Patrice Bergeron, La Presse canadienne.
Bonjour à vous trois. Concernant la vaccination, donc on décide pour le groupe d'âge maintenant de plus de 45 ans. Est-ce que on décide que ce soit à 45 ans plutôt que 40 ans ou 42? Est-ce que c'est des raisons sanitaires ou des questions de disponibilité de vaccin, par exemple?
Oui, je vais y aller. L'âge de 45 ans, là, il a été fixé par nos experts du Comité d'immunisation du Québec. Et la raison pour laquelle l'âge est choisi et peut différer d'un territoire à l'autre, c'est en fonction de l'incidence de la maladie et de la situation épidémiologique. C'est pourquoi, donc, dans le fond, si vous avez une incidence très élevée, les bénéfices de la vaccination peuvent être encore présents à un âge plus bas. Donc, c'est pour ça qu'il y a un âge qui a été choisi au Québec, c'est le 45 ans. Et c'est en lien aussi avec nos données épidémiologiques, nos données d'hospitalisation, soins intensifs, etc. C'est vraiment cet âge-là qu'on remarque une augmentation importante. Mais ça demeure des vaccins sécuritaires, je pense, comme tel. Vous savez que le Royaume-Uni l'a utilisé à 30 ans comme tel, mais nous, on l'utilise en fonction de notre épidémiologie.
Par ailleurs, M. Legault, question peut-être... Ah, allez-y, M. Dubé.
Horacio, si vous permettez. Contrairement aux semaines précédentes, là, ici, ce qui est important, c'est l'âge et non l'année de naissance. Je veux le préciser, il faut avoir un 45 ans fait pour se qualifier.
M. Legault, par ailleurs, question plus politique. Le budget donc a été déposé hier. Vous l'avez vu, donc, la fameuse question de la hausse des transferts de santé du fédéral. Vous n'avez pas obtenu gain de cause là-dessus. Est-ce que, à terme, ce problème de financement-là va poser un risque sur la pérennité du système de santé, sur la qualité des soins ou sur le panier de soins qui est offert au Québec?
Bien, c'est certain que c'est le problème le plus grave de toutes les provinces et les territoires actuellement, le problème financier le plus important. Vous le savez, on demande 28 milliards récurrents de plus pour l'ensemble des provinces. Donc, pour le Québec, c'est 6 milliards de plus. Bon, évidemment, vous avez remarqué que ça ressemble pas mal au déficit récurrent du gouvernement du Québec. Donc, ça veut dire que le gouvernement fédéral vient pas, en tout cas avec les transferts, nous aider à régler un problème majeur. Par contre, il y a un montant qui, la première année, va être d'à peu près 680 millions, puis va monter jusqu'à 1,8 milliard récurrents pour les frais de garde, pour les services de garderie qu'on a déjà au Québec. Bon, on sait qu'on a un réseau à compléter, mais il reste que, bon, on peut dire que dans les 6 milliards qui nous manquent, là, bien, il y a une partie, 680 millions cette année, puis 1,8 milliard en 2025, qui peut nous aider à régler une partie, une petite partie de notre problème financier. J'étais content de voir que, même si le gouvernement fédéral ne se mêle pas de ses affaires encore, qu'au moins ça va être fait sans condition, donc qu'on va pouvoir avoir une pleine compensation.
Isabelle Porter, Le Devoir.
Oui, concernant AstraZeneca, on a beaucoup entendu parler du fait que ça, les femmes étaient davantage à risque de faire des thromboses. Pourquoi pas donner des directives différenciées pour les femmes et les hommes? Et puis, qu'est-ce que vous pouvez peut-être dire aux femmes plus jeunes là, par rapport à ça pour les rassurer? Puis, est-ce qu'il y a des choses qu'elles peuvent faire pour se protéger si elles se font vacciner au AstraZeneca?
Les experts, quand on regarde les données, là, ont démontré qu'en haut de 45 ans, là, il n'y avait pas nécessairement de ségrégation de sexe à faire comme telle. C'est vrai qu'il y a eu des cas chez des femmes plus jeunes dans certains pays comme telles, mais actuellement, on n'a pas de recommandation différenciée par le sexe. Les mesures que les femmes peuvent prendre, bien, ce sont, un, se faire vacciner, surtout quand il y a, à mon avis, beaucoup de circulation. Donc, ça demeure, surtout à cet âge-là, un vaccin sécuritaire. Puis c'est, bien entendu, à ajouter les autres mesures qui sont nécessaires. Je veux dire, il y a quatre mesures importantes. Hein, je vais les répéter encore jusqu'à ad vitam aeternam. Le port du masque, la distanciation de 2 mètres, le lavage des mains. Et maintenant, on ajoute la vaccination.
Concernant les variants, on nous répète depuis des semaines que les variants sont beaucoup plus dangereux. Il y a des experts qui disent qu'il ne faut plus parler de 2 mètres avec les variants, mais de 3 mètres. Quand est-ce qu'on va avoir des directives claires sur les gestes barrières en ce qui a trait aux variants? Par exemple, est-ce que c'est encore sécuritaire de prendre l'autobus ou le métro à l'heure de pointe avec les variants? C'est un exemple parmi d'autres, mais est-ce qu'on va avoir une mise à jour à ce sujet-là bientôt?
Suivre la littérature par rapport à cet élément-là. Il faut comprendre que déjà le respect de 2 mètres, c'est tout un défi dans notre société comme tel. Si on avait des indices comme quoi qu'il faut absolument le faire, je pense que la mesure de 2 mètres, du port du masque, comme on a mis aussi à l'extérieur, si on est à possibilité moins de 2 mètres, pour le moment, semble être quelque chose qui fonctionne, mais il faut dire que on a surtout du variant UK au Québec. On n'a pas encore eu beaucoup de Brésiliens ou autres, mais c'est des choses qu'on va surveiller de très près par rapport aux expériences internationales sur la base, je vous dirais, des données probantes.
Louis Lacroix, Cogeco Nouvelles.
Bonjour, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de la Santé, Dr Arruda. Il y a de plus en plus d'experts qui, face à des éclosions qui surviennent dans des CHSLD, qui demandent à ce que la deuxième dose de vaccin soit donnée de façon plus rapide dans les CHSLD, les RPA, par exemple, ressources intermédiaires, pour essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas une hécatombe comme on avait connue dans les autres vagues dans les CHSLD. Est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez?
Bien, premièrement, je veux m'assurer, là, puis merci pour la question, M. Lacroix. Là, je veux rassurer tout le monde. On va respecter notre échéancier de donner la deuxième dose à l'intérieur du délai de 112 jours tel qu'on l'a promis. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que ce qui a pu peut-être inquiéter les gens, c'est qu'on a eu des retards dans Moderna, et Moderna était un des deux ARN qui était prévu pour les CHSLD. Alors là, on est en discussion avec la santé publique, mais je pense que ça va se confirmer dans les prochaines heures, qu'on peut faire une alternance entre le Moderna et le Pfizer pour être capable de pallier au manque de Moderna qu'on a à court terme pour s'assurer justement qu'on respecte notre délai. Alors, ce que je voudrais, puis je veux dire le mot rassurant, là, parce qu'il est important pour nous, puis je vais le dire, là, au plus tard, le 8 mai, toutes les personnes des CHSLD vont avoir reçu leur deuxième dose, ce qui nous permet d'être à l'intérieur de nos délais. Et lorsqu'on aura terminé avec les CHSLD, à ce moment-là, on pourra passer dans les autres résidences, mais on va respecter notre engagement malgré le petit pépin qu'on a eu avec Moderna.
Merci. Ma deuxième question pour M. Legault. Hier, Ottawa a annoncé un programme pan-canadien de services de garde qui est calqué sur celui du Québec. Mme Freeland a annoncé qu'il allait avoir une compensation pour le Québec, mais il en demeure pas moins que ça, vous l'avez souligné tout à l'heure, que ça demeure un empiétement dans les compétences des provinces. Est-ce que vous avez l'intention de contester quand même ce programme-là? Ou est-ce que le fait d'avoir justement une compensation fait en sorte que pour vous c'est correct qu'on reçoive de l'argent, même si Ottawa vient marcher dans les plates-bandes des provinces?
Bon, d'abord, Éric Girard a parlé avec Chrystia Freeland, puis il y a eu la confirmation qu'il y aurait une pleine compensation sans condition. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. Évidemment, on va continuer de dénoncer cette habitude, cette mauvaise habitude de Justin Trudeau de vouloir centraliser, de jouer au papa avec les provinces. C'est vrai pour les CHSLD, c'est vrai quoi qu'il a décidé de reporter ça pour pas faire de trouble pour l'instant. Mais cette mauvaise habitude de centraliser, je pense qu'il devrait respecter les compétences des provinces, des territoires.
Pas pour l'instant.
OK, pas de contestation pour le moment, à tout le moins. Luc Lavoie, tu as écouté ça attentivement, comme c'est toujours le cas.
Bien sûr.
Qu'est-ce que tu retiens?
Ben, d'abord, toujours un mot sur l'atmosphère. Je pense qu'on en parle chaque fois. Je les ai trouvés particulièrement sereins aujourd'hui. Mm-hmm. J'ai trouvé que c'était très calme. Il n'y avait pas de tempête. Il n'y avait pas d'annonce dramatique. C'était aussi, ma foi, un point de presse où on apprenait, on nous confirmait. D'ailleurs, Bernard, as-tu compris, ça, est-ce que c'est sans rendez-vous ou rendez-vous AstraZeneca? C'est ça que j'ai pas compris.
C'était avec rendez-vous. Moi, ce que j'ai compris, c'est que c'était avec rendez-vous, là, parce que là, écoute, ils ouvrent à...
Parce que des gens m'ont écrit pour me le demander, je sais pas.
Oui, moi, je pense que c'est... Ce que j'ai compris, c'est qu'à partir de demain, on va pouvoir prendre un rendez-vous, là, si on a 45 ans et plus. En passant, là, c'est bien important... Faut que vous ayez 45 ans pour y avoir droit. Alors que pour
45 ans bien sonné.
Ouais. Puis ça c'est bien important parce que dans le cas des 55 ans et plus, ce qu'ils nous avaient dit, c'était 55 ans ou 1966 comme date de naissance. 1966 ou avant. Ce qui veut dire que tu pouvais ne pas avoir ton 55 ans parce que tu vas l'avoir, mettons, cet
été. Mais tu es d'accord, Bernard, que c'est
mais
du
tatillonnage. Mais maudit que c'est mêlant. Pourquoi est-ce qu'il y a deux règles différentes? Une pour le 55 ans, parce que là, c'est 55 ans ou 1966. Puis là, il dit, ça peut pas être 45 ans 1976. C'est juste 45 ans, 45 ans, 45 ans et plus.
Mais là, je trouve ça, c'est le genre de règle tatillonneuse qui fait, je sais pas, on a de la difficulté à suivre. Tu prends le AstraZeneca. Ouais. L'Angleterre est un des pays à l'heure actuelle qui déconfine puis ont ouvert les terrasses parce qu'ils ont vacciné à une vitesse infernale. Mm-hmm. Et les gens qui ont 30 ans, ils reçoivent du AstraZeneca. Qu'est-ce qui serait fait de dire on va utiliser la même règle 45 ans, c'est-à-dire si t'es né telle année? Non, non. Il a fallu qu'ils nous ajoutent une petite bébelle, un 7-8 mois qui va changer quoi? J'ai pas la moindre idée. Ça, c'est le côté rigide de l'affaire que j'ai jamais trop aimé parce qu'on a de la difficulté à suivre. On a de la difficulté à suivre. Maintenant, je te dis que c'est pas rassurant quand on écoute les nouvelles concernant l'Outaouais. Wow! Moi, j'ai remarqué surtout cette idée, le pourcentage de tests qui s'avèrent positifs. À l'échelle du Québec, c'est 3,7. En Outaouais, c'est presque 10,9%.
Ah oui.
Et ça veut dire que c'est une flambée, là, Bernard. Et on sait depuis longtemps qu'en Outaouais, il y a une déficience dans les services de santé. En fait, ils ont décidé de construire un tout nouvel hôpital. Mais pour l'instant, je te dis qu'il n'y a plus beaucoup de place. Puis on transfère vers les Laurentides. Même chose dans Chaudière-Appalaches. On transfère de la Beauce vers les hôpitaux de Québec.
Vers Lévis, oui, vers Lévis. Ouais.
Là, on étire, là, comprends-tu, là.
Ah ouais. Mais là, l'élastique est... Honnêtement, dans le cas de la Beauce puis de l'Outaouais, l'élastique, il est plus qu'au bout, là. T'es obligé de transférer du monde, là, tu sais.
Ah non, c'est vrai. Ouais. Mais moi, j'ai toujours pensé que l'argument... Il a beau être vrai, là, puis il a beau être rationnel, là, auprès des gens, leur dire votre système de santé, c'est pas un argument fort, c'est pas quelque chose qui rallie le monde, OK? Mm-hmm. Mais c'est une réalité, puis elle est incontournable.
Mais je vais te dire, l'hôpital en Outaouais, là, construisez-le au plus sacrant, puis on sait combien de temps ça nous prend, nous autres, à construire.
10-15 ans, on est...
Vont-tu l'avoir avant 10 ans, tu penses, en Outaouais? Là, les gens qui nous écoutent en Outaouais présentement, là, pensez-vous que vous allez avoir votre hôpital avant 2030-31?
Et m'a dit une affaire, on est tellement habitués au Québec qu'on s'en formalise même plus.
Ah, moi, je m'en formalise encore.
Ça me met hors de moi, mais je veux pas y penser,
Bernard. Mais ça, je te comprends, parce que ça nous choque.
Le CHUM, ça a pris 30 ans, pas loin.
Arrête. Pas sur le CHUM. On a changé trois fois de place, tu te rappelles?
Ben oui.
Il devait être à Outremont.
Ils chicanaient entre eux, Couillard avec Charest, Outremont. Bon. La famille démarrait, puis s'attelait là, puis bading, badang.
C'est ça. Bon.
On sait comment rendre ça compliqué au Québec.
On est bon là-dedans,
oui.
Oui, mon homme. OK, on se reparle un petit peu plus tard, mon Luc. Oui, absolument. On s'en va à la pause. Et Lise Ravary, tout de suite de l'autre côté.